Bonjour, c'est Aude Vernuccio. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Deuxième épisode consacré au trafic de drogue en Équateur, ancien paradis touristique. Le pays est confronté à une explosion des violences, prises d'otages en direct, à la télévision, assassinat d'un procureur chargé de l'enquête, émeutes en prison et gardiens séquestrés. Le président Daniel Noboa veut frapper fort après l'évasion d'un chef de gang, alias Fito, le patron des Choneros. Il veut reprendre le contrôle. Pourra-t-il stopper cette escalade par la méthode forte, policière, militaire? On en parle maintenant dans Focus. Bertrand Monnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'EDEC, grande école de commerce, spécialiste de l'économie du crime, et vous avez infiltré pour Le Monde le cartel de Sinaloa au Mexique. J'invite d'ailleurs les auditeurs à regarder ce documentaire exceptionnel, Narcobusiness, sur lemonde.fr. Vous avez filmé littéralement les coulisses de la production de fentanyl dans les laboratoires. Alors on parlait de la hiérarchie des gangs avec notre correspondant Eric Sanson. On peut dire qu'ils répondent, ces gangs en Équateur, aux ordres de qui? Des cartels mexicains justement?
Oui, enfin en tout cas pour le cartel de Sinaloa, qui est le seul sur lequel je travaille depuis longtemps. Effectivement, comme le disait très, très justement votre correspondant en Équateur, le cartel de Sinaloa est présent depuis longtemps en Équateur. En fait, c'est un pays qu'ils utilisent comme un comptoir, en fait, comme un port. C'est vraiment Guayaquil qui les intéresse pour mener à bien leurs opérations d'export, leurs opérations logistiques. Ils ont développé une implantation assez profonde. En tout cas, les clans du cartel de Sinaloa sur lesquels je travaille, parce que le cartel c'est une fédération, c'est pas pyramidal, donc je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres clans, mais certains des clans majeurs de Sinaloa, oui, ils sont présents depuis longtemps, et ils sont implantés avec un facilitateur très puissant qui est l'argent. Ils gagnent des milliards de dollars en vendant différentes drogues. Bon, il y a le fentanyl, il y a surtout encore la cocaïne qui est leur blockbuster, donc c'est pour exporter la cocaïne qu'ils sont implantés à Guayaquil. Et cet argent, forcément, ils l'utilisent pour s'implanter. Donc, ils paient, dans ce qu'ils m'expliquent, toute la galaxie de groupes qui était évoquée précédemment. Ils ont aussi, me disent-ils, une action directe de corruption sur certains éléments clés de leur logistique, notamment dans le port.
C'est principalement ça, d'ailleurs, la corruption, le facteur qui a facilité la contagion, entre guillemets.
Oui, enfin, selon moi, en tout cas, pour le cartel de Sinaloa, c'est clairement ça. Ils ne sont pas implantés par la force. Autant ils peuvent développer vraiment des actions extrêmement violentes au Mexique. C'est des gens, c'est des tueurs. Je pense, c'est mon opinion, mais ils laissent faire ce travail-là aux groupes locaux. Alors certains vivent en permanence là-bas, mais ils préfèrent, comme ils le font d'ailleurs dans d'autres pays, en Europe, aux États-Unis, ils préfèrent les gens importants ne pas les laisser en permanence dans le pays. Donc ils ont une présence permanente quand même, mais pas forcément avec la même personne.
Ils laissent le sale boulot aux gangs, justement.
Oui, je pense qu'ils contractent, en fait. C'est une chaîne économique qu'on pourrait comparer avec une économie légale, c'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui sous-traite, qu'il y a des fournisseurs, qu'il y a des contracteurs, etc. C'est exactement ce qu'ils font. Et donc, les flux, c'est essentiellement de l'argent, et ils n'ont pas sur place beaucoup de sicarios, c'est-à-dire de tueurs, parce qu'encore une fois, ils n'en ont pas besoin, ils sous-traitent ça aux groupes locaux. Ils en ont, mais pour se protéger eux-mêmes et protéger les boss quand ils y vont, c'est ce qu'ils m'expliquent. Mais, et ça, ils ne le sous-traitent pas. La protection de leur boss, elle est faite par des gens de Sinaloa.
Pour poser clairement le diagnostic, quel rôle a aujourd'hui l'Équateur sur l'échiquier du trafic de drogue?
L'Équateur, il est devenu central dans la logistique d'une partie du trafic de cocaïne, parce qu'encore une fois, c'est quand même un sujet assez complexe. Bon, la Colombie voisine produit à peu près 60-65% de la cocaïne qui est vendue dans le monde, et beaucoup s'explique par ça, en fait. C'est la production de cocaïne en Colombie, elle explose depuis 2016 d'une plus 13% cette année par rapport à l'année dernière.
C'est énorme,
c'est 1700 tonnes.
Et pourquoi l'Équateur alors?
Il y a une proximité avec certaines zones, les zones du sud de la Colombie, mais dans ce que m'expliquent les narcos mexicains et les narcos colombiens que je rencontre à Cali, eux, leur sujet, c'est de diversifier les routes en permanence. Parce que leur seul vrai ennemi, finalement, c'est la saisie. Pour limiter ce risque de saisie, ils développent en permanence des routes alternatives qu'ils vont utiliser. Il faut comme ça qu'ils s'implantent dans des ports. Le port, c'est vraiment le lieu stratégique pour les narcos. Alors, le port pour faire partir la drogue, mais aussi le port pour la recevoir. Par exemple, en Europe, le port d'Anvers, le port de Rotterdam, le port du Havre, etc. Guayaquil a une importance première à leurs yeux. C'est que c'est un port qui a une forte capacité. C'est un port industriel de containers. Donc, ça, c'est important pour eux. Ce qu'on sait en tout cas pour l'Europe, sur les 110 tonnes de cocaïne qui ont été saisies dans le port d'Anvers, le plus grand port européen l'année dernière, à peu près 60% venaient de Guayaquil.
Ah,
donc en ce moment, oui, et en ce moment, c'est vraiment un hub, enfin c'était un hub très utilisé par les narcos. Je pense que ça change aujourd'hui. Moi, je devais aller filmer prochainement à Guayaquil en accompagnant les gens du cartel de Sinaloa avec lesquels je travaille, et c'est annulé parce que ils me disent
parce que la situation est trop tendue.
Voilà, mais je vais aller filmer ailleurs parce que ils ont déjà trouvé des solutions de secours. Hein. Ils utilisent même des ports de containers qui ne sont pas sur des façades maritimes mais sur des fleuves. Donc ils sont capables de diversifier leur zone d'export, leur chaîne logistique.
De trouver des solutions de repli assez rapidement.
Ils gagnent un argent tel, quand on regarde une carte, on se dit mais attendez, la coke saisie à Anvers, 60% ça vient de Guayaquil, qui est un port qui est sur la façade pacifique. Mais c'est pas grave, pour eux, aucune entreprise légale ne ferait ce choix logistique. Pour desservir une zone en Europe de l'Ouest, si on peut, on va utiliser une façade, un port atlantique. Mais eux, c'est pas grave, ils font passer par le Panama, donc ça leur coûte très cher parce qu'il y a plein de transitaires à corrompre, il faut charter des containers, des cargos, etc. Mais cet argent de la coke, et tout vient de là. En fait, tous ces morts, ils viennent d'une rentabilité incroyable. Il n'y a aucun produit légal qui est plus rentable que la coke. La coke, entre le labo de cocaïne à Cali et les rues en Europe, à 65 euros le gramme, la rentabilité de la coke, c'est 6000%. Quand vous gagnez votre argent avec 6000%, vous pouvez corrompre qui vous voulez. La question, c'est juste quand la personne va devoir accepter. Mais vous allez corrompre des gens. Vous pouvez inonder des pays entiers de narco-dollars. C'est juste une question de temps. Et là, en Équateur, on a vu, oui, ça a pris du temps, comme le décrivait très très bien.
Une quinzaine d'années, c'est extrêmement rapide, oui. Finalement, une quinzaine d'années.
C'est très rapide, mais avec une corruption qui, à mon sens, est très très profonde. On verra combien de temps l'état de droit peut résister. Mais je pense que là, vraiment, la corruption est profonde, notamment de l'appareil judiciaire.
Alors, il y a ce facteur, évidemment, de la corruption, et il y a ce facteur de l'argent que vous évoquiez. Le nœud du problème, en fait, il vient pas de la violence en soi, ni de la perte de contrôle dans les prisons, il vient bien de cet argent sale.
Complètement. Mais il y a un autre problème en bout de chaîne. Les États qui pourraient le faire ne s'en occupent pas assez. Le problème des narcos, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de l'utiliser. Parce que les milliards de dollars qu'ils gagnent, ils le gagnent en cash. Et avec du cash, on ne peut rien faire. Ils ont besoin de garder du cash pour corrompre, pour acheter des produits précurseurs, pour produire la drogue, etc. D'accord. Mais l'essentiel de leur argent, ils doivent le transformer en ligne d'écriture sur des comptes en banque. Ça s'appelle le blanchiment d'argent. Quand on doit blanchir des dizaines de milliards de dollars chaque année, on ne peut le faire qu'en utilisant un autre trou noir de l'économie mondiale, comme l'est devenu le port de Guayaquil, qui s'appelle le paradis bancaire. Un paradis bancaire, c'est un État dont les autorités ne vont pas collaborer avec des autorités étrangères quand elles lui demandent des informations sur le compte en banque d'un narco qu'elles cherchent à arrêter.
Il va où cet argent? Comment on le blanchit?
L'argent, il reste pas en Équateur. Les narcos le font bouger. Ils le font bouger tout simplement par des transferts de
Panama,
fonds.
Dubaï.
Alors, c'est Panama, bien sûr, dans la région. Attention, il y en a d'autres. Hein. C'est les Bahamas, c'est les îles Vierges britanniques. Il y a des centaines de lieux comme ça où on peut faire ça. Et puis, bien sûr, c'est Dubaï, qui est l'un des plus opaques de ces paradis bancaires, dont les autorités ne collaborent. Alors, vraiment, que très, très, très exceptionnellement avec des États étrangers. Donc, pour eux, c'est une zone où ils sont tranquilles. Une fois que l'argent est arrivé là-bas, donc sur des comptes qui sont de fait opaques et inaccessibles à la DEA, l'agence antidrogue américaine, ils ont une sécurité additionnelle. C'est qu'avec cet argent placé sur leur compte, ils achètent de l'immobilier à Dubaï. Donc il y a plein de choses à acheter très très cher, quoi. Et ça, ils adorent. C'est des appartements, c'est des immeubles, c'est des zones résidentielles entières.
Et est-ce qu'ils achètent en Équateur, par exemple?
Pour les narco-mexicains en Équateur, je ne sais pas. Mais en tout cas, une fois qu'ils ont acheté cet immobilier, soit ils le gardent, mais généralement, ils le revendent. Alors là, l'argent, une fois qu'il vient de la vente d'un bien immobilier à Dubaï, il est complètement blanchi. Personne ne peut connaître son origine. Personne ne peut prétendre que derrière cet argent-là, il y a un narco.
Finalement, ce qu'on entend, c'est que quand on voit que le président équatorien se dit prêt à laisser agir légalement les militaires, les policiers, à leur laisser du pouvoir, la méthode forte, entre guillemets, ça va pas suffire.
À court terme, j'espère que ça marchera, mais c'est évidemment pas comme ça qu'on va régler le problème. La seule solution pérenne pour lutter contre le narcotrafic, ils sont tellement puissants, les narcos, et leur argent est tellement fort, j'allais dire, c'est de les convaincre que ça ne sert plus à rien de faire ça. Et pour ça, il y a une solution, c'est de saisir leurs biens, de montrer que leur fric, ils vont le gagner, mais que finalement, ça sert pas à grand-chose parce qu'il va être saisi. Et surtout, c'est les empêcher de blanchir leur argent. Si vous empêchez un narco de blanchir ces milliards de dollars, ça va juste être du papier stocké dans des containers. Il n'en fera jamais rien. Évidemment qu'il faut lutter militairement sur le terrain, c'est évident et c'est très courageux de la part de l'État équatorien. Hein. Mais ça suffit pas. Il faut aussi lutter contre le couteau suisse du blanchiment d'argent que sont les paradis bancaires et avant tout Dubaï. Et ça, c'est pas l'État équatorien qui est suffisamment puissant pour le faire. C'est l'État américain, c'est des États européens, c'est la Grande-Bretagne. C'est les seuls États qui peuvent essayer de faire une pression, d'appliquer une pression politique, diplomatique sur ces paradis bancaires qui, politiquement, sont des confettis. Hein. Les îles Vierges britanniques, c'est pas la Russie, quoi. Or, tous ces États européens, américains, UK, ont réussi, en quelques semaines, à appliquer des sanctions, une pression économique, financière énorme sur un État hyper puissant qui est la Russie, pour l'agression en Ukraine. Et on le fait pas contre des paradis bancaires. Si on le faisait, si ces États puissants le faisaient, le trafic diminuerait parce que, de façon très significative, la possibilité des narcos d'utiliser les milliards de dollars d'argent sale qu'ils gagnent, se réduirait aussi.
Merci Bertrand Monnet, spécialiste de l'économie du crime, professeur à l'EDEC, d'avoir été avec nous pour ce deuxième épisode de Focus sur le trafic de drogue en Équateur. N'hésitez pas à le partager, à le commenter et à écouter d'autres épisodes sur RTL, sur rtl.fr et sur toutes les plateformes habituelles. À très vite.